Antoine Dubosc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président fondateur du Startup Studio Adventure. Donc, on
Oui.
va parler avec vous. Vous avez vous-même créé déjà une startup et puis on va parler de cette nouvelle aventure-là.
Oui.
Justement, dans le financement des startups, ça reste quand même un métier difficile de trouver les bonnes startups, d'investir dans les bonnes startups.
Oui, ça reste un métier difficile. Le phénomène des startups a démarré, le phénomène sociologique des startups a démarré en 96 avec l'ouverture d'Internet aux usages commerciaux. Les startups technologiques ont toujours existé en réalité, mais là, il y a eu une vague qui ne s'est pas démentie depuis, malgré deux crises financières successives. Et ce qui caractérise cet univers, c'est une créativité extraordinaire, des succès que tout le monde connaît, mondiaux, qui changent l'économie, qui changent la vie parfois. Mais c'est aussi un taux d'échec très élevé. Les économistes ne sont pas d'accord sur les niveaux sur les taux, mais enfin, on va dire que plus de 90% des initiatives sont des initiatives sérieuses sont des échecs, et au niveau macroéconomique, c'est plutôt 99% de taux d'échec.
Oui, ce qu'on parle beaucoup de ces startups, on en parle de plus en plus là depuis plusieurs mois maintenant.
Oui.
Mais effectivement, on oublie que derrière, il y en a effectivement beaucoup qui ne vont pas aller au bout.
Qui ne vont pas aller au bout, et donc c'est un gâchis humain, c'est un gâchis financier, puisque les sommes maintenant investies se comptent en dizaines de milliards d'euros en Europe et de dollars aux États-Unis. Et donc, face à ça, il y a différentes réponses et il y a différentes stratégies pour essayer de répondre à ce défi. Il y a les méthodes des fonds de venture capital qui jouent un rôle important puisqu'ils apportent beaucoup de financement, se sont spécialisés dans la détection et le financement des startups, mais qui n'ont pas vraiment résolu la question du taux d'échec. Et donc, elles se sont adaptées à un modèle dans lequel elles savent que 85% ou 90% de leur société vont connaître un échec partiel ou total. Il y a un autre modèle qui est apparu, qui est celui des incubateurs, qui a été renouvelé plus récemment avec les accélérateurs et qui donne certains bons résultats. C'est un petit peu tôt pour dire si ça va avoir un impact sur cet aspect-là. Et puis, il y a un autre modèle qui est plus récent, qui est le modèle des startups studios. Je fais partie des pionniers. Il y en a d'autres. Je crée le mien il y a 5 ans. Il y en a d'autres qui ont été créés plus récemment en Europe, aux États-Unis, dans le monde entier, et qui sont en fait des entrepreneurs qui ont déjà connu un cycle ou deux cycles d'entrepreneuriat avec un succès plus ou moins important, et en tout cas qui leur a donné des fonds pour pouvoir créer leur propre structure.
Alors justement, qu'est-ce que ça va changer par rapport, on parlait du capital investissement, qu'est-ce qui change concrètement si, quand
Ce
ça
qui
commence?
change concrètement, c'est que dans le modèle du studio, l'entrepreneur et le studio est co-entrepreneur de chacune des startups. Donc en fait, il y a une relation qui est tout à fait différente de celle de relation d'investisseur que va avoir un business angel ou que va avoir un venture capitaliste. C'est une autre relation aussi que celle de conseil et de coach que peut avoir un incubateur. C'est vraiment un co-entrepreneur qui est associé, majoritaire souvent, en tout cas qui est un actionnaire de référence et qui donc va pouvoir transmettre son expérience de manière beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte, et du coup la startup va être réellement le résultat d'un travail d'équipe incluant des personnes expérimentées, d'autres personnes moins expérimentées, plutôt que finalement d'être une aventure très aléatoire.
Il y a eu, vous avez déjà qu'on a eu de l'expérience, déjà des startups qui ont réussi dans celles que vous avez pu justement intégrer à ce studio.
Alors, on a plusieurs startups qui ont commencé à réussir. C'est un peu jeune encore, donc on ne peut pas dire qu'il y a une base suffisante pour faire des statistiques. Enfin, on a créé 4 premières structures qui ont pour l'instant toutes suivi leur décollage. Et si on prend les chiffres des statistiques officielles, on devrait déjà en avoir 2 sur 4 au tapis, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est plutôt optimiste. On a fixé dans notre studio un taux d'échec de 25%, donc c'est-à-dire qu'on vise 75% de taux de succès. Donc on inverse un petit peu le taux d'échec et de succès habituel. Et c'est pour nous un critère essentiel. Donc, on a une première start-up dans le domaine qui s'appelle Wimi, qui est une plateforme collaborative, un outil collaboratif intégré. On est le leader français sur ce segment, présent maintenant aux États-Unis et avec une croissance très forte. Donc, c'est une très très beau décollage. Une deuxième société dans le domaine de la biotechnologie, le génie génétique, où là, nos clients sont essentiellement américains. Suisses, Israéliens sont très internationaux. Et puis deux autres sociétés qui sont plus early stage. Donc là, il est un petit peu trop tôt pour dire, une plateforme dans l'économie de la connaissance et une autre sur le secteur de l'art. Et puis on a d'autres sociétés qui sont en phase de préparation avant création et dont on ne peut pas encore parler.
De votre point de vue, il y a aujourd'hui un univers effectivement suffisamment large pour ne pas faire, vous parliez de la bulle Internet ou en tout cas de cette période des années 2000, on a bien vu des effets de mode, il y en a un peu toujours. Est-ce qu'on arrive à éviter ces écueils-là aussi?
Alors, il y a des effets de mode, effectivement. Alors, pour le Startup Studio, est un petit peu plus libre par rapport à ça. Les fonds de capital risque sont quand même obligés de suivre, de manière générale, les tendances. Donc, il y a eu le cloud, il y a eu le big data, il y a encore, il y a l'IoT aujourd'hui, et puis d'autres sujets qui sont à la mode. Pour notre part, ça fait pas partie de nos critères. On n'a pas besoin que ce soit un sujet à la mode pour décider d'investir. On a d'autres critères d'investissement. Pour nous, il faut pour décider de créer une société, qu'elle ait un potentiel de devenir un leader mondial sur une niche de marché, aussi petite soit-elle, mais qui soit une niche mondiale et sur lesquelles on a des bonnes espérances d'obtenir un leadership, faire partie des acteurs qui comptent.
Entre le moment où la société sera venue chez vous et peut-être le moment où elle en sortira, ou de votre point de vue, elle aura réussi, c'est à quelle étape? C'est 10 ans? Est-ce qu'il y a une espèce de calendrier?
Alors, on n'a pas de. On se pose régulièrement la question, et plus ça avance, plus on se dit qu'il n'y a peut-être pas de réponse toute faite. Ce qu'on observe comme d'autres, c'est qu'il y a un cycle. Il faut souvent 5 à 7 ans pour passer du zéro à un décollage qui va se traduire par commencer à gagner de l'argent ou bien commencer à faire un chiffre d'affaires substantiel. Il y a des cas qui peuvent être plus rapides, il y a des cas qui peuvent être plus longs. On n'a pas de contraintes vis-à-vis de nos investisseurs qui feraient qu'on serait limité par une durée, par un cycle, comme les cycles qu'on connaît habituellement. Donc, se donner des marges de temps un petit peu ouvertes, c'est justement un de nos atouts. Pour augmenter les taux de succès, réduire les taux d'échec. Une partie des taux d'échec sont justement liés parfois à des contraintes externes qui vous obligent à prendre des décisions trop rapides, soit de croissance trop rapide. Un des cas d'échec qui est de plus en plus documenté, c'est la croissance trop rapide, des levées de fonds par exemple trop rapides, qui conduisent à augmenter les structures de coûts alors qu'en fait on n'a pas encore tout à fait trouvé son adéquation au produit-marché. Donc le fait d'avoir un horizon de temps ouvert nous semble être plutôt une bonne approche.
Merci Antoine Dubosc d'avoir fait le point avec nous.
Merci.